aujourd'hui à la fin du mois consacré à la Vierge Marie, eh bien vient la fête de la Pentecôte et nous fêtons l'époux de la Vierge Marie. On a ici, qui nous est proposé par l'Église, deux textes qui sont complémentaires. Vous avez dans le texte de Jean l'évocation du pardon des péchés, ce pouvoir fabuleux qui a été remis à l'Église, que Dieu seul détient, mais qu'il a voulu partager avec ses ministres, eh bien, afin de sauver les âmes. C'est pas pour que les gens se sentent mieux psychologiquement. Il s'agit vraiment du salut des âmes, d'un salut à portée éternelle, le pardon des péchés. Le second, c'est le récit des Actes des Apôtres, où on voit l'effusion de cette vie nouvelle à travers les premiers à recevoir ce baptême d'en haut, ce baptême de feu, à savoir les apôtres eux-mêmes. Ils se mettent à parler d'autres langues, ils se mettent à avoir un enthousiasme tout nouveau. Et une mission, une vocation. Avant, ils avaient un travail. Avant, ils avaient même une famille. Mais maintenant, ils ont une vocation. Leur vie est marquée par un sceau. Et ils savent où ils vont. Ils n'ont plus besoin de rien d'autre. Et leur famille s'est agrandie jusqu'aux dimensions du monde. C'est fabuleux, l'Esprit Saint. Et ce qui a été accordé aux apôtres est accordé à chacun de nous, à chacun de ceux qui veulent recevoir cette effusion. Tolère nous dit dans son homélie, la première homélie consacrée à la Pentecôte, au dimanche de la Pentecôte, que l'Esprit Saint prépare lui-même sa venue. Et il la prépare de deux manières. D'abord, il fait le vide. Il vide l'âme de tout ce qui l'empêche de venir et de s'installer, à savoir tous les attachements et les vices, bien sûr, mais les vices ne sont rien d'autre que la manifestation de ces attachements terrestres désordonnés. Nous devons avoir un cœur qui est prêt à se tourner radicalement vers Dieu, vers l'amour infini. Or, nous, notre cœur, au départ, en tout cas, il est tourné vers bien d'autres choses, il est tourné vers les êtres de la terre et les choses de la terre que nous goûtons, que nous apprécions et parfois même jusqu'à en faire des idoles, c'est-à-dire à penser que ces choses sont les conditions sine qua non du bonheur. On se trompe, tous les ascètes, depuis le commencement de l'Église, ont voulu montrer le contraire. En renonçant à tous ces appétits, à tout ce qui comble les appétits humains, ils montraient que le bonheur véritable est ailleurs et que le bonheur ne leur échappait pas pour autant, au contraire. Donc on a avec Tolère l'évocation finalement de ces deux textes. Jean, avec le pardon des péchés, nous dit comment l'Esprit Saint commence par faire le vide en nous, pour préparer sa demeure. Et puis ensuite, Tolère nous dit, là il peut remplir l'homme. Alors il y a le baptême, le moment où on reçoit le baptême, là il s'en va où, nous dit Tolère? Dans le fond de l'âme. Le fond, là, notre personnalité profonde. C'est là que Dieu habite en chacun d'entre nous par le baptême. C'est vrai que Dieu est libre souverainement, lui. Il peut très bien accorder l'Esprit Saint à des gens qui n'ont pas reçu le baptême, qu'ils ne connaissent même pas éventuellement. Pensons au centurion Corneille. Pierre est bien obligé de constater que ce centurion païen, avec les membres de sa famille, parle sous la motion de l'Esprit Saint. Alors, il se décide à leur donner le baptême. La différence entre cette souveraine liberté de Dieu et cette alliance avec l'Église, c'est que le baptême communique l'Esprit Saint de façon permanente, tandis que Dieu, c'est toujours momentané lorsqu'il éclaire quelqu'un avec l'Esprit Saint. C'était le cas dans l'Ancien Testament avec les prophètes. On lit « l'Esprit de Dieu fondit sur lui ». Mais c'était momentané, ces expériences. ils redevenaient eh bien, des hommes qui ont besoin de salut dès que l'Esprit avait rempli sa fonction auprès d'eux. C'est une chose merveilleuse. C'est plus que merveilleux, il n'y a pas de mot pour traduire ça. Dieu habite en nous. Il habite en nous. Et la seule difficulté, c'est ce que souligne Toller, alors pas pour le baptême, mais pour le renouvellement de cette effusion, jour après jour. Il nous dit, oui, il faut faire le vide. L'Esprit Saint nous invite à faire le vide en nous. Mais si on fait un tout petit peu de place seulement, eh bien on aura un tout petit peu d'Esprit Saint. Si en revanche on fait beaucoup de place en nous, on balaye là toute une flopée d'attachements terrestres ou aux créatures, et alors là, l'Esprit Saint, il y en aura beaucoup plus à disposition. Et c'est exactement comme ça que ça marche pour la vie spirituelle, nous le savons bien. Nous n'avons qu'à puiser. La source de la vie est désormais en nous. Mais nous devons faire cet effort par la foi, eh bien, d'aller au puits et aller puiser cette eau vive qui nous a déjà été donnée, mais que souvent les croyants peinent un peu à aller chercher. Ils sont détournés, leur attention est détournée par les choses de ce monde, et puis eh bien, ils oublient d'aller puiser l'eau vive qui pourtant est là à leur disposition. Mais comme disait la Samaritaine à Jésus, il est profond le puits. Et si ta foi est petite, tu n'en apporteras qu'un petit verre. Alors la foi, il faut qu'elle ait un grand contenant pour nous abreuver vraiment selon nos besoins. L'Esprit Saint rend possible la foi. Non seulement il est en nous, c'est Dieu qui est en nous. Quelle merveille, quelle nouveauté aussi. Mais l'Esprit Saint nous communique la foi. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas avoir la foi. Et évidemment, tous les incroyants sont étonnés par la foi. Ils se disent, la foi, qu'est-ce que ça peut bien être, etc. Mais la foi, ce n'est pas une adhésion aveugle comme le comportement idéologique, par exemple. Vous avez dans l'idéologie un fanatisme qui ressemble beaucoup à la foi. Des gens capables de donner même leur vie pour une cause, la plupart du temps totalement injuste, mais ça, ils ne le voient pas. On leur propose un bien au bout du bout, un bout qui n'arrive jamais, bien sûr. Mais ils sont mus par une espèce de foi aveugle, mais ça n'est pas la foi. C'est un aveuglement. Et en même temps que des gens qui étaient sans vocation, qui n'avaient pas de perspective pour leur vie, et puis qui d'un seul coup, leur est offert la perspective de servir une grande cause, d'être portés eux-mêmes par cette grande cause, exaltés par elle. Vous voyez comme l'orgueil et la vanité peuvent concourir au vide intérieur et à l'angoisse existentielle pour former des fanatiques qui assassinent ensuite tout le monde. Parce qu'ils sont aveugles. La foi n'est pas aveugle. La foi nous met en relation avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Dieu et c'est une personne au sens le plus noble, le plus haut, le plus grand du terme. Sans l'Esprit Saint, pas de foi. Ça se reçoit de Dieu, la permission d'entrer en relation avec lui. Et même de le regarder de loin. Même ça, il faut la permission de Dieu. Et c'est vraiment un cadeau fantastique. Quand on veut imaginer un peu ce qu'étaient spirituellement parlant les disciples, ou ce que nous sommes nous-mêmes, tout simplement, lorsque nous vivons vraiment sous la motion de l'Esprit Saint, eh bien revenons à ce vieil épisode du buisson ardent où Moïse rencontre Dieu pour la première fois sur l'Horeb. Un buisson qui brûle sans se consumer. Eh bien moi je trouve que c'est une belle image pour nous dire un peu l'état des apôtres au moment où ils recevaient ces langues de feu. Oui, il y a un feu qui nous brûle sans nous consumer. Et le buisson d'épines, résume bien la nature humaine, ce qu'elle est, une nature qui est indocile, mais qui, grâce à ce feu venu d'en haut, eh bien peut être consacrée à Dieu, peut briller dans le monde d'une lumière eh bien, que le pauvre buisson n'a pas par nature. Il faut rendre gloire à Dieu de nous revêtir d'un tel vêtement, de cacher ce buisson que nous sommes, hein, aux yeux des hommes, aux yeux des anges, et à ses propres yeux aussi. Il met un manteau tissé d'amour et de vérité sur nos épaules, il oint notre tête, pareillement, d'une lumière toute céleste. C'est vraiment de... Et c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Époux de Marie, l'Esprit Saint, cet esprit, cet amour maternel de Dieu qui nous regarde, qui est l'ami des hommes, comme la sagesse dans l'Ancien Testament, qui aime à jouer avec les hommes et pour les protéger, pour les faire grandir. Il y a aussi cette joie de la Pentecôte, cette sobre ivresse. Ceux de l'extérieur se disaient ben, ils ont trop de buts de vin doux. Qui est le résultat de la découverte du sens de la vie. D'un seul coup, on voit, on comprend, on expérimente eh bien, cette vocation qui nous est donnée, mais qui est glorieuse et immense, partager éternellement le cœur de Dieu. Et ça, ça change la vie tout entière. Ça n'enlève rien aux sensations que nous sentons, que nous percevons, etc., mais ça donne en ce monde qui est hostile, en ce monde qui est angoissant, en ce monde qui est mortifère dans ses valeurs, dans son agir. Et il est toujours menaçant. Dès qu'il communique un bonheur, c'est toujours la menace, quand est-ce qu'on va nous l'enlever, etc. L'être de ce monde qui met sa joie en ce monde, qui cherche à mettre sa joie en ce monde, n'y parvient jamais, sauf momentanément. Nous, il nous est donné, et c'est la joie des apôtres, d'un seul coup, ils comprennent quel est le sens profond de leur vie, le mouvement de leur existence et son terme. Et tout cela, ben, ça nous remplit de joie, parce que nous sommes remplis d'Esprit Saint. Toujours nos idéologues et leur pseudo-foi, leur grand idéal, c'est quoi ? C'est la conquête du monde. Toutes les idéologies, c'est ça, quel que soit leur contenu. Il s'agit de conquérir le monde. Il s'agit d'imposer au monde la bannière de l'idéologie qui nous porte. C'est dérisoire comparé à l'espérance que Dieu nous propose. Le monde, il passe. Et le monde est fade. Mais pour ça, fade par rapport à quoi ? Par rapport, eh bien, au royaume des cieux. Sinon, quand on ne connaît pas le royaume des cieux, eh bien, on peut trouver cette conquête du monde exaltante. Mais c'est vraiment une vanité des vanités, comme disait l'Ecclésiaste. Et vraiment, cette conquête toujours renouvelée, d'idéologie en idéologie, de siècle en siècle, c'est vraiment une absence de nouveauté sous le soleil, pour le coup. Une répétition inlassable pour essayer de tromper l'ennui et l'angoisse qui se cachent derrière l'ennui des hommes. L'Esprit Saint est l'époux de la Vierge Marie. Marie, elle collabore toujours avec l'Esprit Saint pour sauver les âmes. Et c'est vrai que même si nous ne prions pas l'Esprit Saint, parce que nous avons du mal à nous le représenter, c'est l'Esprit de Dieu envoyé aux quatre coins du monde, nous dit le texte de l'Apocalypse, cet Esprit Saint, cette lampe qui brûle devant le trône de Dieu, les sept dons d'Esprit Saint que nous désirons obtenir, parce qu'ils nous permettent de vivre en communion avec Dieu, à ressentir, à goûter cette communion. C'est ça le propre des dons d'Esprit Saint. Eh bien, Marie nous l'apporte. Quand nous prions le chapelet, eh bien, Marie nous apporte l'Esprit Saint. C'est ce qui fait l'efficacité merveilleuse du chapelet. C'est la joie, la paix qu'elle nous procure, et en même temps la défense contre les adversaires, contre le malheur. Marie, eh bien, envoie toujours l'Esprit Saint à ceux qui la prient. Je conclurai en disant que c'est un esprit d'amour, l'Esprit Saint, que notre amour envers Jésus nous introduit dans un amour envers le Père. Et quand nous aimons le Fils, nous aimons le Père, et alors, eh bien, le Père nous envoie, nous donne en permanence l'Esprit Saint, qui est cet amour de la Trinité tout entière en nous. Je veux dire par là, il y a un mouvement circulaire, un mouvement infini, continuel, de renouvellement de la grâce en nous, dès que nous aimons le Fils. Le Fils attire l'Esprit Saint parce qu'il nous met, il nous fait aimer le Père. Alors le Père, il est toujours loin pour nous. Le Père, c'est celui qui demeure dans l'éternité, c'est celui qui est sur le trône, auquel on ne peut pas donner de forme, et qui est toujours assis sur ce trône, qui ne bouge pas. L'Esprit Saint, c'est l'inverse, c'est le mouvement pur. C'est Dieu toujours en mouvement, Dieu qui s'adapte au monde et à chacun d'entre nous, à ce que nous sommes, notre histoire personnelle. L'Esprit Saint nous instruit, l'Esprit Saint nous fait ressouvenir de tout ce que Jésus a dit. L'Esprit Saint nous protège. L'Esprit Saint vraiment est en nous. Alors, eh bien partons, faisons de la place à l'Esprit pour lui permettre d'irriguer nos âmes.